du repentir, du deuil, de la douleur qu'on éprouve devant nos fautes ou d'avoir offensé Dieu. Cette doctrine relève de l'ascétisme, certes, et j'aimerais montrer toute son importance, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, pour la compréhension des liens, justement, entre expérience mystique et raison philosophique. On peut se demander de façon générale quelle fonction accomplit ou remplit la mystique dans le champ des sciences sociales et religieuses. On peut s'interroger sur la manière dont ces sciences traitent la documentation mystique, iconographie, archives, témoignages, pour l'ériger en objet de savoir ou pour établir les conditions d'une science mystique. Mais on peut aussi poser la question des termes et de leur traduction. Donc aborder la notion de mystique comme un problème lexical. C'est la différence entre mystique comme adjectif et mystique comme substantif. À vrai dire, mystique est d'abord un adjectif. C'est le terme utilisé dans l'exégèse allégorique des premiers pères de l'Église comme Origène pour parler de la connaissance des mystères et leur contemplation, donc pour signifier ces mystères. Et à la fois pour entrer en relation avec ce qu'il signifie, pour connaître ces mystères comme des choses secrètes et cachées, et en même temps pour en éprouver la présence, ce qui rejoint à mon sens ce qu'on évoquait ce matin de la conférence de Daniel Proulx, la signification passive dont parle Corbin, une signification ou une connaissance qui transforme le sujet connaissant de l'intérieur. Mystique est un terme surtout dont la fonction lexicale relève de ce qu'on appellerait aujourd'hui du métadiscours, puisqu'il ne décrit pas les propriétés d'une substance, comme le fait l'attribut d'un sujet, mais il déplace un univers de sens dans un autre univers du discours. Prenons par exemple le terme de rose, ou dans rose mystique, qui désigne le nom symbolique de Marie dans l'Église catholique et surtout employé dans les litanies de Lorette. Prenons encore le jardin mystique, qui renvoie à l'image du jardin de Marie dans les peintures et les enluminures du XIVe et XVe siècle. Mystique, comme adjectif, désigne donc une façon d'être, une façon de faire, une disposition ou une modalité du discours qui transporte l'unité substantive d'un nom, la rose, le jardin, vers un autre plan du discours, sur une autre scène des représentations. On parle donc d'une interprétation mystique, d'une connaissance mystique ou encore d'une expérience mystique et pour ma part, d'une émotion mystique. Je parlerai d'une émotion particulière liée au deuil, au don des larmes et qu'on appelle justement, au moins depuis Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, la doctrine de la componction ou parfois doctrine de la contrition. J'essaierai de montrer que cette émotion relève à la fois de l'expérience mystique et de la raison philosophique. Non seulement cette émotion implique un mode de rationalité ou de connaissance rationnelle, mais de plus, elle produit une relation sensible ou affective avec l'objet de cette connaissance. Je situerai mon propos aux sources de cette doctrine de la contrition entre le IIIe et le IVe siècle en lisant surtout deux textes. Le commentaire d'Origène du psaume 4-5 sur la contrition de David et deux passages des propos sur la contrition de Jean Chrysostome. Les pères de l'Église orientale du IVe siècle, Jean Chrysostome lui-même, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée ont développé une nouvelle conception du don des larmes, d'Acrione Doron, liée à l'ascétisme et au monachisme chrétien primitif. Cette conception est aux sources de la doctrine de la componction. Elle a transformé la signification des larmes et instauré de nouvelles pratiques du deuil. Elle a produit une autre idée de la mort ou un autre rapport entre l'homme et sa mortalité. Ce changement porte non seulement sur le sens accordé au concept de larmes, mais aussi sur le statut et la fonction que l'on peut attribuer aux émotions, qu'il s'agisse de la tristesse, de la douleur ou du regret. D'une réponse au don divin des larmes, dans le premier monachisme, on passe à l'expérience humaine de la finitude et aux émotions liées à la perte. À partir de là, j'avancerai une double hypothèse qui s'articule. D'un côté, entre le don des larmes et la componction, va s'inventer un nouveau type de deuil, une émotion mystique qui porte sur la perte, qui signifie un au-delà et met le sujet endeuillé en relation avec cet au-delà. D'un autre côté, cette invention du deuil mystique relève en grande partie d'un problème lexical, d'interprétation et de traduction. Pour exprimer cette nouvelle conception des larmes, on aura le plus souvent utilisé le terme grec « penthos », qui signifie le deuil, à proprement parler, le sentiment qu'on éprouve devant la perte d'un être cher. Très vite, ce terme sera traduit en latin par « cum punctio », qui désigne le punctum, la pointe qui pique ou la piqûre qui blesse. Pensos et compunctio sont des termes interchangeables au point de former, dès le 5e siècle, un lieu commun du discours et de fonder ce qui deviendra justement la doctrine de la compunction. Or, l'assimilation des notions est d'autant plus problématique que le mot latin compunctio est un terme utilisé pour traduire le terme grec catanuxis, qui vient de kata nuo, et qui veut dire blesser, abattre, achever, détruire, et qui est formé de nuxis, qui désigne lui l'action par laquelle on blesse quelqu'un. Les deux traités de Jean Chrysostome, Peri kata nuxeos, sur lesquels j'appuierai ma lecture, ont très tôt été traduits en latin par de compoxione. On maintient cette traduction d'ailleurs encore aujourd'hui. Dans la collection des apophthegmes des pères du désert, par exemple, ou dans la correspondance de Barzanuf et Jean de Gaza, le terme catanuxis, et parfois même d'ailleurs le terme pensos, est systématiquement traduit en français par compunction. Or, le terme de compunction est ambigu et peut tout aussi bien désigner un sentiment de tristesse ou de remords éprouvé devant notre indignité à l'égard de Dieu, qu'un sentiment de gravité, de recueillement, qui peut aller parfois jusqu'à l'hypocrisie. Et devant ce risque de contresens qui menace ou du moins fragilise les fondements rationnels de la foi et que doit contrôler l'institution ecclésiastique, on aura aussi traduit catanuxis par contritio, la douleur d'avoir offensé Dieu, là aussi le remords, le regret, le repentir, mais sans le double sens de la compunction. Dans ce chassé-croisé des termes et leurs traductions, on aura fait de pensos une compunction tout en interprétant la catanuxis comme la blessure du repentir devant l'offense. Avant d'en venir au texte même, à leur traduction et au concept de deuil mystique, je reconstituerai un petit schéma explicatif qui s'élabore en trois temps ou trois instances. Les larmes, comme manifestation extérieure et visible du deuil, la compunction, comme manifestation affective et sensible, la douleur qui blesse, la blessure qui perce le cœur, et la contrition, la manifestation proprement spirituelle du deuil, qui permet à l'esprit de quitter son état meurtri pour se libérer et s'envoler vers l'au-delà. Ce qui m'intéresse dans ce schéma, ou cette reconstruction critique, ne porte pas sur la pertinence des oppositions, l'action par laquelle le cœur est brisé et l'état passif du repentir, mais plutôt sur un certain type d'argument qui permet de distinguer deux types de deuil, ou deux manières d'être affecté devant la perte, ouvrant par là l'idée d'un deuil mystique à proprement parler. Cette distinction porte sur trois points. Tout d'abord sur l'objet du deuil, à propos de quelle perte le sujet est-il endeuillé. Deuxièmement, sur le temps du deuil, quel rapport le deuil entretient-il aux dimensions du passé, du présent et du futur. Et enfin, sur la disposition du deuil ou les différents états psychiques que produisent les types de deuil. Pour mettre en perspective cette distinction des deuils, je citerai mon premier texte, un passage, à mon sens, central des propos sur la contrition que Chrysostome adresse au moine Démétrios. Je cite ce passage. C'est ainsi que nous devrions être en deuil de la perte de notre propre salut. C'est la phrase clé. nous devrions être en deuil de la perte de notre propre salut. Ten apobolen, tes soterias, tes emeteras pensein. Pour ne rien dire de plus, c'est avec autant de désir et d'ardeur qu'il faudrait que nous ayons tous le regard de l'âme tendu vers l'au-delà, et que la mémoire, mnemen, et la figuration de cette perte nous occupent totalement. Mais en fait, ceux qui ont perdu un enfant et une femme ne laissent distraire leur esprit vers rien d'autre que vers l'imagination de ceux qui leur ont été arrachés, tandis que nous, qui avons subi la perte du royaume des cieux, nous faisons de tout plus que lui l'objet de nos pensées. Car être en deuil, poursuit Chrysostome, ce n'est pas seulement se revêtir d'un sac, ni s'enfermer dans une cabane, ni s'asseoir dans l'obscurité, mais tourner et retourner à longueur de temps ses propres mots dans sa mémoire, et se torturer la conscience avec ses pensées, mesurer avec soin sans cesse la longueur du chemin pour voir combien nous sommes éloignés du royaume des cieux. Fin de la citation. Chrysostome distingue explicitement ici deux types de deuil. Sans les désigner par un attribut spécifique, il précise que ces deuils se distinguent en fonction des objets de la perte. D'un côté, on peut perdre un enfant ou une femme, de l'autre, on peut perdre son âme ou son salut, le salut de son âme. La première perte produit sur l'esprit endeuillé une douleur qui le pousse pour un temps déterminé à imaginer, fantasmer, ou projeter la présence des êtres disparus. L'esprit est distrait par l'imagination de ceux qui lui sont arrachés. L'autre perte, porte ou concerne le salut de notre âme, soteria. Son deuil est permanent, diapanton, à longueur de temps, et sa douleur est infinie, extrême et sans fond. C'est justement la compunction ou la contrition. On aura nommé cet autre deuil spirituel, saint, bienheureux ou religieux. Je le nommerai pour ma part deuil mystique, ou plus exactement mystico-eschatologique, prenant en considération sa dimension spécifiquement temporelle. Chrysostome précise ses propriétés du deuil mystique, que j'appelle mystique, en affirmant que la perte de l'âme porte sur l'âme elle-même, sur son propre salut ou sur le royaume des cieux, en se référant directement au verset de Matthieu 5:4, bien connu, « Heureux ceux qui sont en deuil, pensuntes, car ils seront consolés. » À la différence de la perte d'un proche, un être de chair bien-aimé qui vient de mourir, cette perte de l'âme n'a pas encore eu lieu. Elle n'est pas la projection imaginaire de sa propre mort, mais elle est anticipée. Elle est vécue à l'avance ou éprouvée comme un événement qui lui est déjà survenu. C'est le deuil d'une mort potentielle et à venir, dont la douleur ou la blessure du cœur exprime tout le paradoxe. D'un côté, ce deuil mystique réalise le message annoncé dans le passé sur la faute et le péché, mais d'un autre côté, ce deuil anticipe l'avenir du jugement dernier. C'est au cœur de cette tension que repose, selon moi, le sens mystique de la catanuxis. Pour le montrer, il faut revenir à nos problèmes de traduction. Notons tout d'abord que le terme catanuxis, le terme grec catanuxis, est un néologisme qui n'est pas attesté avant la Septante, et que le terme latin cum punctio, on l'a vu, en est la traduction littérale. Mais il faut maintenant préciser les notions. Catanusein est formé du verbe nusein, qui veut dire donc piquer, blesser, heurter, voire abattre ou tuer. De la même manière, cum punctio correspond au verbe cum pungere, composé de pungere, piquer, frapper, et de punctum, qui peut tout aussi bien désigner la pique que le point, la piqûre qui fait un trou que le trou lui-même laissé par une piqûre. Or, dans les textes des pères, le terme grec, issu directement de la Septante, est le plus souvent utilisé au passif, et de manière métaphorique. Le sujet est toujours piqué en son cœur, accablé, abattu, ou profondément atteint par une vive émotion. Et toute la question du deuil, et en particulier du deuil mystique, comme remords ou repentir, va consister à savoir comment on est passé d'un état grammatical qualifiant le passif, comme le participe parfait passif kata nugmenon dans le psaume 108-16 par exemple, qui a été profondément atteint en son cœur, à la forme active du regret, du repentir, c'est-à-dire à la métanoïa, le changement de sentiment, de pensée ou la transformation du cœur. Autrement dit, en quoi cette piqûre du cœur peut-elle transformer le cœur ou faire de sa douleur ce qui la met en relation avec sa propre mort? Comment comprendre cette douleur, cette émotion, elle-même comme un mode de relation mystique qui signifie la perte du salut de l'âme et en même temps qui rapporte l'âme à son propre salut? Le verbe katanusesai, être piqué, se trouve 18 fois dans la Septante. Nous pouvons rapporter 11 fois ce verbe au texte massorétique, texte hébreu, et 6 fois il se rattache au verbe hébreu daman, dama, qui signifie lui se taire, cesser, arrêter, être réduit au silence et même parfois être anéanti, mais jamais être profondément atteint en son cœur. On peut reconstituer cette occurrence du verbe au passif dans le psaume 4-5, sur lequel je reviendrai avec le commentaire d'Origène dont j'ai parlé plus haut. Mais j'aimerais encore insister sur ce passage important des Actes 2-37, qui se cite des Actes des Apôtres, qui se situe justement dans un contexte de stupeur ou d'égarement, existanai, un état où le sujet est mis hors de lui-même et qui fait perdre la raison. C'est le miracle des langues de feu au jour de la Pentecôte, et les Juifs étaient profondément égarés. Le vers 12, acte 2 donc, « Ils étaient tous hors d'eux-mêmes, existanto de panthes, et très embarrassés, ils se disaient l'un et l'autre, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Fin du vers. Puis ils écoutent le discours de Pierre, qui se termine par la crucifixion de Jésus, et c'est là que la catanuxis conduit à la métanoïa. Je cite, vers 37, « À ces paroles, ils furent touchés au cœur, kate nugesan ten kardian. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, qu'allons-nous faire ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, meta noesate. » Fin de la citation. Dans ce passage, les choses sont très claires et précisément distinguées. La piqûre du cœur non seulement précède la transformation du cœur, mais cette douleur n'induit en rien le repentir. Devant le choc et la douleur, les Juifs sont démunis et ne savent pas quoi faire. D'où l'impératif de Pierre, repentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous, comme le traduit peut-être un peu trop rapidement, à mon sens, la traduction de la Pléiade. Or, dans son commentaire du psaume 4-5, Origène va déplacer le rapport de causalité externe, accidentelle, entre douleur et repentir, choc et conversion, en un rapport de détermination intrinsèque où la douleur s'éprouve elle-même comme repentir, où la piqûre du cœur produit et introduit elle-même dans le cœur ce qui transforme le cœur. Et c'est la condition du deuil mystique. Mais comparons les trois versions des psaumes. Le texte massorétique, la traduction grecque de la Septante, selon l'édition de Ralph, et la version que cite Origène, qui diffère quelque peu de l'édition de Ralph. Texte massorétique, « Tremblez et ne péchez pas, parlez en votre cœur et sur votre couche, restez en silence. » La traduction de la Septante, « Soyez en colère et ne péchez pas, parlez en votre cœur, et sur votre couche, soyez atteint en votre cœur. » Et le texte que cite Origène, « Soyez en colère et ne péchez pas », là il y a un changement, « Ce que vous dites en votre cœur, sur votre couche, soyez-en atteint en votre cœur. » Je vais revenir en détail sur le texte. Il faut insister ici sur la forme passive du verbe à l'impératif « kata nugete », qui traduit le terme hébreu « daman »,« silence, taisez-vous ». Le terme grec est donc utilisé ici sans complément, comme s'il avait une valeur pronominale réfléchie, à la manière du verbe, par exemple, « se repentir ». Et cette valeur grammaticale nous renvoie, nous laissant supposer qu'elle a dû aussi renvoyer l'esprit du traducteur, à la forme niphale du verbe hébreu, comme en 1 Roi 29, « As-tu vu comment Achab a été profondément atteint ?» Hébreu « kata », grec « katenuge », « Comment il a été profondément atteint devant moi » ou « humilié » selon les traductions. Or, comme le précisent les grammairiens, le mode niphale en hébreu est moins un passif qu'un réfléchi de l'action, qu'on aura nommé le niphale tolerativum, ou moins joliment l'acceptatif. Le sujet ne subit pas l'état dans lequel il se trouve passivement, mais il accepte d'être mis dans l'état indiqué par le verbe. Pour être plus précis, on peut encore se référer à l'abrégé de grammaire hébraïque de Spinoza, au chapitre 21, consacré au verbe réfléchi actif, ici le verbe visiter, pakal. Je cite Spinoza, « Il ne signifie jamais être visité par soi-même, mais se donner à être visité, ou faire en sorte qu'il soit lui-même visité. » En latin, de Spinoza, « facere ut ipse visitetur ». À partir de là, on peut faire l'hypothèse que la valeur du réfléchi actif reste toujours opérante dans le verbe grec « katanugete » du psaume 4-5 et idéalement, bien entendu, dans l'émotion mystique du deuil. Le texte grec que lit et interprète Origène lui permet de faire de la proposition relative dans la deuxième hémistiche du verset « ce que vous dites dans votre cœur » a legete en tais cardiais humon, l'antécédent du complément du verbe. C'est ce qui se dit dans le cœur qui doit être atteint ou qui doit atteindre le cœur de la plus vive émotion. Ce qui se dit dans le cœur qui doit atteindre le cœur de la plus vive émotion. Une interprétation que ne permet ni le texte massorétique ni la traduction de la Septante dans l'édition de Ralph. Et si l'on rapporte cette interprétation à l'hypothèse d'un verbe réfléchi actif, on obtient la proposition suivante, en traduction paraphrasée du psaume, « Faisez en sorte d'être vous-même profondément atteint dans votre cœur par les paroles que vous dites en votre cœur. » Et toute la difficulté va consister à définir le contenu propositionnel de la phrase ou de ce qui se dit dans le cœur, par l'examen rationnel du jugement ou de la réfutation. C'est l'interprétation d'Origène, dont je cite un passage clé du commentaire. Puisque le psalmiste a en quelque sorte digéré les paroles de réfutation et qu'il a souffert sous leur effet l'état de la katanugmos, de la contrition, à cause de cela, il reconnaît avoir reçu en même temps que les craignants Dieu le signe divin pour échapper au trait de l'arc divin envoyé sur les impies, sur ceux qui restent dans leur péché sans se repentir. Fin de la citation. Je diviserai ce texte en deux parties. Dans la première, Origène donne au contenu propositionnel, donne un contenu propositionnel à la relative, ce que vous dites en votre cœur. Il parle des discours de réfutation. Logoi electikoi, sous l'effet desquels le psalmiste, David, a souffert l'état de la katagnumos, ou s'est laissé atteindre en son cœur. Or, ce discours de réfutation reprend un terme philosophique très précis, mais complexe. Chez Aristote, il désigne l'instrument logique de l'argumentation, par lequel on réfute un adversaire, en rhétorique ou en justice, ou encore par lequel on examine et pose les preuves. Elekros peut vouloir dire aussi bien examen que preuve. On retrouve ce terme chez Philon, dans Quid Deterius, paragraphe 24, qu'il utilise sans doute pour la première fois comme un juge intérieur, un examen de conscience ou conscience morale. Je cite Philon, « Ce juge, outos o elekros, ce juge a demandé à l'âme, quand il l'a vu errer, Que recherches-tu ? En citant Genèse 37, 15. Ce juge a demandé à l'âme, quand il l'a vue errer, que recherches-tu ? Et enfin, dans les Stromates, deuxième livre, huitième chapitre, Clément d'Alexandrie recourt au même terme logique pour définir la pistis, la croyance ou la foi, comme, je cite, « la preuve des choses qui ne se voient pas ». Pragmaton, elekros ou blepomenon. Il y a donc bel et bien, dans ce qui se dit au fond du cœur, une rationalité spécifique, qu'il ne faut pas trop vite définir par morale ou l'amorale, comme un jugement moral ou comme une faculté morale. J'aimerais montrer qu'il s'agit plutôt d'une rationalité mystique, qui ne contredit d'ailleurs en rien l'idée de moralité, mais qui rapporte surtout la conscience du jugement moral à l'eschatologie du jugement dernier, menaçant, vous vous en souvenez, les âmes d'une mort éternelle. J'en veux pour preuve l'argument par l'émotion que développe Origène dans la même proposition. Cet examen produit en effet une douleur, une souffrance, une émotion, mystique et rationnelle tout à la fois, qui met le sujet dans l'état de la catanuxis. Ces paroles du cœur qui examinent le cœur opèrent entre douleur et réfutation, dans le but de transformer le cœur. De même que la réfutation dialectique ou sophistique veut transformer l'argument de l'adversaire, de même cette réfutation, par l'émotion douloureuse, va transformer l'état dans lequel se trouve le cœur. Dans son commentaire, Origène parle encore d'un aiguillon, ou plus précisément d'une réfutation comme aiguillon. Chacun, dit-il, doit se piquer de l'aiguillon de la raison. Toi logoi kentunta. On retrouvera cette piqûre rationnelle de l'âme dans l'Inscriptiones Psalmorum de Grégoire de Nice, dont je cite un passage. Lorsque le psalmiste dit, et Grégoire de Nice cite toujours le même psaume 4-5, « Ce que vous dites en votre cœur, sur votre couche, soyez-en atteints », Grégoire continue, lorsque le psalmiste dit cela, il indique le moyen qui conduit à la pureté, être juge et arbitre des pensées de l'âme. Crites te kai epignomon ton tes psures. La rationalité de cette douleur ou émotion porte donc sur deux points précis. D'un côté, elle agit directement sur le cœur ou sur son état affectif. De l'autre, elle permet au cœur de s'examiner ou d'être à lui-même son propre arbitre, et non plus de juger un adversaire. En d'autres termes, cette émotion n'est ni purement passive, ni simplement active, mais elle opère elle aussi comme un réfléchi de l'action. Elle fait en sorte d'être soi-même atteint en son cœur par le jugement du cœur. Ce qui me permettra de revenir dans un instant au texte de Chrysostome sur la contrition et le deuil comme perte du salut de son âme. On peut donc enchaîner un ensemble de termes pour dire la rationalité de l'émotion mystique. La piqûre, l'aiguillon, parfois la morsure, ou encore les traits de l'arc divin qui menacent ceux qui restent sans repentir, comme dans la deuxième partie du commentaire d'Origène. Tous ces gestes de blessure marquent le lien entre les deux parties du commentaire, entre les paroles de réfutation qui font souffrir le cœur et cette reconnaissance des signes divins qui libère le cœur de sa souffrance. À cause de cela, il, David, c'était, je cite de nouveau Origène, à cause de cela, David reconnaît avoir reçu le signe divin pour échapper aux menaces du jugement dernier. Cette réfutation est une reconnaissance, homologia, non pas directement des signes divins, mais d'avoir reçu les signes. Ei lephenai homologei, to seion semeiosin. Cette précision permet, à mon sens, de retrouver dans la forme passive de katanugete le sens d'un réfléchi de l'action. Par cette reconnaissance, le cœur meurtri se met lui-même dans un état de transformation, ou plus exactement, il se dispose de lui-même à sa propre métanoïa, ou repentance. Origène écrit « metanoesantas ». En somme, on peut dire que le commentaire d'Origène a fait de la catanuxis le processus même de la métanoïa et de la componction un acte de repentir, inventant par là le sens de la contrition comme blessure qui sauve, comme une émotion qui soigne et guérit, aux sources de la doctrine de la componction. Or, on l'a vu avec Chrysostome, la blessure de l'âme porte d'abord et avant tout sur la perte de son propre salut. Ce dont souffre l'âme, c'est de sa propre perte. Ce qui la blesse au plus profond d'elle-même, c'est une mort éternelle à venir, qu'elle éprouve comme lui étant déjà survenue. Cette souffrance-là, que je nomme donc deuil mystique ou émotion mystique du deuil, implique elle aussi une forme de rationalité que l'on peut interpréter à partir du commentaire d'Origène des psaumes comme un fondement de la doctrine de la contrition ou de la componction. Autrement dit, en interprétant Chrysostome par Origène, la question va porter désormais sur la rationalité de cette souffrance ou sur les liens entre rationalité et mystique du deuil. En quoi consistent les paroles de réfutation du deuil mystique? Et dans quelle mesure cette rationalité permet-elle à l'âme d'être en deuil de la perte de son propre salut? Je cite un passage important d'un autre texte de Chrysostome sur la contrition, adressé, lui, au moine Stelekios. Sous l'effet d'une grande contrition, Hypopoles catanuxeon. David, avait à longueur de temps, de nouveau, diapantos, inscrit en lui la mémoire du jugement. Sous l'effet d'une grande componction, David avait à longueur de temps inscrit en lui la mémoire du jugement. Et il retournait continuellement en lui-même, au milieu de tant de flatterie et de volupté, ce grand jour que nous, au milieu de notre détresse, nous avons peine à faire entrer dans notre mémoire. Fin de la citation. Chrysostome parle donc de David, modèle de la contrition et auteur présumé des psaumes. C'est donc lui qui aurait dit « Ce que vous dites en votre cœur, sur votre couche, soyez-en profondément atteint. » Aussi, interpréter Chrysostome par Origène revient à comprendre la grande contrition de David en fonction des paroles de réfutation qu'il dit en son cœur. Et ces paroles-là, on l'a vu, cet examen ou ce jugement concerne certes les fautes morales, mais porte surtout pour Chrysostome sur les effets qu'elles produisent dans le cœur et dans l'âme. La rationalité du jugement moral ne consiste pas seulement à se blâmer, mais bien, dit Chrysostome, à inscrire en l'âme la mémoire du jugement dernier, donc à anticiper ce jugement par une nouvelle capacité de la mémoire. Cette mémoire du jugement dernier, cette mémoire eschatologique que produit la contrition de David, est donc un type d'émotion propre au deuil mystique. Dès lors que la mémoire du jugement dernier est inscrite dans l'âme, à longueur de temps, précise à nouveau le texte, l'âme éprouve maintenant et de façon permanente sa propre mort éternelle à venir. Et lorsque Chrysostome affirme que l'âme est en deuil de la perte de son propre salut, ce deuil est pensé sur le modèle de la contrition. D'un côté, il inscrit dans l'âme la mémoire du jugement dernier, c'est la douleur devant sa mort éternelle. De l'autre, il permet à l'âme, en demeurant continuellement dans cette mémoire, de faire de cette souffrance infinie le lieu depuis lequel elle pourra s'envoler ou tendre vers l'au-delà. Je rappelle le texte cité plus haut. Il faudrait que nous ayons, de Chrysostome, il faudrait que nous ayons tous le regard de l'âme tendu vers l'au-delà et que la mémoire et la figuration de cette perte nous occupent totalement. L'émotion mystique du deuil, ou la contrition, et je terminerai là-dessus, consiste pour l'âme à vivre sa mort éternelle au futur antérieur. Or, vivre ou faire l'expérience de sa mort éternelle, souffrir de ce qui va arriver pour l'éternité, permet surtout à l'âme de se transformer ou de se repentir, c'est-à-dire de se tourner, se diriger et de s'envoler vers cette éternité. Dans cette pensée de la contrition, la souffrance constitue le lieu d'une repentance et la douleur un nouveau salut de l'âme. La doctrine de la contrition le confirme d'ailleurs parfaitement. De Grégoire le Grand à Grégoire Palamas, moitié du XIVe siècle, la contrition est pensée selon la double condition de l'âme. D'un côté, la pénitence de l'âme, de l'autre, l'envol de l'âme. Je cite Grégoire le Grand, Morale sur Job. L'âme pourrait se comparer à un fin duvet ou à une plume légère. Si les vices et les soins du monde ne viennent l'apesantir ou la passion coupable la souiller, soulever en quelque sorte par le privilège inné de sa pureté, au plus léger souffle de la méditation spirituelle, elle s'élèvera vers les hauteurs et, désertant les choses d'ici-bas, passera au céleste et invisible. Lorsque la contrition, telle une machine, per quamdam cum puncionis machinam, s'élève l'esprit vers les hauteurs, tout ce qui de lui se présentera à lui-même, il le contemple au-dessus de lui-même d'un jugement plus assuré. Fin de la citation. Je cite encore un passage de la lettre à la moniale Xénée, de Grégoire de Palamas. C'est une phrase. C'est à une telle hauteur, tous autos, upsos, que le deuil bienheureux, Makarion Pentos, élève les humbles de cœur et les pauvres en esprit. Fin de la citation. Et c'est ma conclusion. Il y a donc bel et bien une émotion mystique dans la contrition du deuil, mais cette émotion ne va pas dans un certain ascétisme, sans un examen critique de la douleur sur la douleur, ni sans un travail de la blessure qui constitue la spécificité rationnelle du deuil. Cette émotion peut se dire tout à la fois mystique et rationnelle, en ce sens qu'elle produit les conditions d'une transformation de l'âme, et par là établit les relations doctrinales entre catanuxis et métanoïa, componction et repentance. Cette émotion permet à l'âme de se reconnaître dans son état de mort éternelle, et en même temps, elle fait de cet état le lieu de son envol, la source de son éveil, et la mettre en relation avec cet au-delà pour un salut éternel.
Merci. Merci Serge pour ce parcours assez impressionnant à travers ces théologiens qui prennent tellement au sérieux la responsabilité des hommes face à leurs propres actes. Nous avons maintenant un moment d'échange, de questions pour ceux qui voudront.
Je peux parler comme ça?
Oui.
Merci beaucoup d'avoir trouvé les mots pour le deuil, mais je m'aperçois aussi, quand vous avez cité les actes des apôtres, que quand la langue rentre, c'est la métanoïa qui arrive. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de faire ce que les 72 disciples ont fait quand Jésus les a envoyés, ressusciter les morts et guérir les malades, et qu'on laisse le logos se faire chair, et que c'est la chair qui puisse peut-être s'envoler, et pas l'âme, et pas attendre l'au-delà, parce que il se passe des choses bizarres aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous n'avons pas l'humilité de la chair, que nous n'osons pas l'humilité de la chair. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller plus loin que le deuil?
Oui, sans doute.
Que vraiment, c'est ressusciter, c'est le moment de la pistis, quoi. Oui. Ressusciter les morts, guérir les malades, c'est possible aujourd'hui, ici et maintenant.
Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites, là, plusieurs Bien sûr qu'il faut aller au-delà du deuil. Ce qui est intéressant dans le texte en question des actes, à mon sens, c'est qu'il pose justement la non-coïncidence entre ce qu'on appellera la componction ou la contrition et la repentance. Donc, quelque chose va s'inventer avec le christianisme, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, le texte des actes vient tout de suite après la crucifixion du Christ, hein, donc il y a quelque chose aussi dans la crucifixion qui ramène à l'incarnation, enfin, il y a tout l'événement christique qui intervient, mais cet événement semble ne pas suffire pour instaurer le lien entre componction, c'est-à-dire choc, émotion, douleur et repentance. Hein, on n'en est pas, puisque Pierre dit aux Juifs, puisque devant ce sentiment de douleur que vous éprouvez, tout ce que vous pouvez faire, puisque vous ne savez pas quoi faire, eh bien, c'est de vous convertir, de vous repentir. Ça veut bien dire que l'articulation entre les deux n'était pas encore élaborée. Après, est-ce qu'il faut dépasser le deuil ? Tout dépend du deuil, tout dépend de quel deuil on parle. Hein ? Parce que vous êtes peut-être en train de parler de l'autre deuil, pas du deuil mystique ou du deuil que Chrysostome essaie d'élaborer. C'est pas le même. Ce deuil-là est d'une certaine manière infini.
Une autre question dans la salle ? Oui, M. Clergue.
Pardon, je pense que j'ai un assez de souffle. Ça va. Oui, merci beaucoup de cette question. Mais quand je lisais les émotions mystiques, je les voyais de façon un peu plus générale et peut-être un peu occidentale, entre autres, vous savez que un peu artificiellement, nous séparons un peu, nous voulons séparer mystique spéculative et mystique affective. Alors, sur ce plan-là, et ce matin, en entendant les trois exposés, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la mystique spéculative telle qu'elle a été élaborée dans la mystique rhénane, à travers Descartes, Suzo, Taroner, etc. Et je me demandais si Corbin, et pourquoi Corbin, parce qu'apparemment, mais maigre connaissance dans son domaine, il ne semble pas qu'il ait véritablement abordé la question, alors que ce matin, elle me semblait omniprésente à travers les trois interventions, y compris d'ailleurs concernant le protestantisme. Je crois qu'il faudrait exclure son approche des Amis de Dieu de l'île verte de Strasbourg, qu'il avait vu plus sur le plan chevaleresque que sur le plan mystique et qui s'est avéré en fait une fausse piste. Alors là, c'était une question. Corbin s'est-il rapproché de la mystique rhénane et dans quel texte ?
Je ne vais pas vous répondre à cette dernière partie de la question parce qu'il y a dans la salle des spécialistes bien plus compétents que moi pour répondre à cette question qui est adressée au parcours de Corbin. En revanche, je tiens à préciser ce que j'ai mentionné au début. Je distinguerai, pour des raisons aussi historiques ou historiographiques, la mystique comme la mystique rhénane de la mystique au sens, ou non pas la mystique, mais de l'adjectif, c'est-à-dire l'expérience mystique, l'émotion mystique, la connaissance mystique, qui n'est pas encore une discipline, qui n'est pas encore un savoir, une science. Moi, je suis plutôt resté dans cette période de l'histoire où on ne parle pas encore de la mystique. Donc, on ne peut même pas dire qu'il y a la mystique spéculative ou qu'il y a des types de mystique. Le mot mystique reste surtout, peut-être que quelqu'un pourra contredire cette affirmation qui n'est absolument pas la mienne, mais que beaucoup d'historiens ont posé. Il n'y a pas vraiment de science mystique avant peut-être le 16e, 15e, 16e siècle, peut-être même pas au Moyen-Âge, il faudrait voir tout ça. Mais en tout cas, du côté des pères de l'Église, le mot mystique apparaît toujours accompagné, ou il accompagne un substantif, ou il accompagne quelque chose qui peut se décliner en mystique. D'abord et avant tout, c'est le domaine de l'exégèse biblique, où le mot mystique apparaît. Pour les pères de l'Église. Donc je pense que c'est... On n'est pas encore dans un registre de classification. Hein, on peut définir et décliner le sens de cet adjectif, qui n'a pas le même sens s'il est utilisé avec connaissance ou avec expérience ou avec émotion, mais on n'est pas dans un rapport de discipline ou de savoir. Enfin, mais plutôt, c'est un autre ordre de questionnement, je crois.
Oui.
Oui, j'aimerais faire le lien entre ce que vous avez magistralement exposé et la question des images. Parce que dans un texte fameux, Grégoire le Grand, que vous avez cité au début...
Oui, Grégoire le Grand, que vous avez cité au début, fait de la componction un des, comment dirais-je, une des fonctions des images, à côté du rappel de l'histoire sainte et de l'enseignement pour ceux qui ne connaissent pas le latin, qui n'ont pas accès donc aux textes des Écritures. Donc j'aimerais savoir si... alors ce qui est d'ailleurs... votre exposé permet à mon avis d'éclairer notamment la question de la présence des images dans le christianisme médiéval. Puisque d'ordinaire, les historiens dont je suis ont coutume de mettre en avant la question d'enseignement, comme la fonction de l'enseignement par les images, et non pas particulièrement la componction qui est pourtant citée dans la lettre de Grégoire le Grand à l'évêque Sérénus de Marseille. Donc j'aimerais savoir si, dans les références que vous avez consultées dans la patrologie orientale, est-ce qu'il y a ce rapport est fait entre la notion donc de componction et ses synonymes et la question de la fonction des images et la question de l'émotion mystique à travers la contemplation des images.
Alors, parmi les textes que j'ai lus, surtout les textes que j'ai cités et d'autres que j'ai pu parcourir, je n'ai pas trouvé de référence explicite à la question des images. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, parce que ces auteurs-là, qu'on appelle les Cappadociens en l'occurrence, Basile et de Grégoire et Chrysostome, un peu, tout petit peu différent, mais qui appartient au même siècle, ont beaucoup, beaucoup, vous le savez, travaillé sur la question des images. Ce sont des auteurs pour qui la question de l'image est une question absolument fondamentale. Et le livre que tu citais, Pierre, sur Augustin, sur l'image, je montre aussi que Augustin est l'héritier direct de toute cette tradition, une pensée de l'image. Alors après, quel rapport, c'est une question très intéressante, hein, quel rapport, quelle fonction l'image peut jouer par rapport à la contrition ? C'est-à-dire dans quelle mesure une image que l'on observe, que l'on regarde, que l'on voit, on est dans un type d'image. Évidemment, les Cappadociens déclinent des régimes différents, mimétiques de l'image. Mais cette image qu'on regarde, cette image peinte, cette image fabriquée, dans quelle mesure elle peut jouer le rôle ou assumer le rôle de la componction, c'est-à-dire produire les mêmes effets de transformation, parce que métanoïa, il ne faut pas oublier, ça veut d'abord et avant tout signifier changement de l'âme, du cœur, c'est une transformation, hein, en repentance, si on traduit directement, on perd un tout petit peu l'idée de changement. Alors dans quelle mesure les images, et quelle image en particulier, peut s'attribuer cette fonction, c'est certainement passionnant de le faire, et c'est assez déroutant, parce que ça donnerait à l'image un pouvoir équivalent à tout cet ascétisme qui, lui, nécessite toute une pratique extrêmement élaborée, voire même surveillée, en quelque sorte, aussi, par les autorités, par toute une hiérarchie. En fait, l'ascétisme qui permet la componction, dans le cadre duquel la componction est possible, si l'image pouvait s'y substituer, il faudrait aussi théologiquement assumer les effets. Hein, ça serait assez déroutant. Donc, ça me semble être un champ à la fois intuitivement, je dirais que oui, mais il faudrait vraiment voir quelle image, dans quelle mesure, et quels sont les effets bénéfiques et maléfiques. Parce que c'est aussi très périlleux d'attribuer à l'image ce pouvoir-là. Ça veut dire que l'image aurait comme une force, une autonomie, que les Cappadociens reconnaissent d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'irai dans ce sens.
Les orthodoxes et les sacramentaires, il y en a
beaucoup. Voilà.
Une dernière question sur la question sur la compunction.
J'ai une petite question. Je me demande si ce passage de la coïncidence au rapport intrinsèque que vous avez mentionné, si dans les écrits des pères de l'Église, enfin, ceux qui écrivent sur ces choses-là, ils appellent ça un saut sémantique ou épistémologique même. Et je me demande si c'est, parce que j'ai vu cette expression, et je me demande si c'est une méthode argumentaire qu'ils ont d'habitude, ou bien si c'est spécial ici.
Évidemment qu'ils n'appellent pas ça un saut épistémologique, mais... Non, mais ils pensent effectivement à un changement de niveau.
J'ai lu cette expression dans un truc religieux, hein, écrit par des religieux. Par...
Oui, mais ils diront plutôt qu'il y a des niveaux de sens. Des niveaux de sens. On peut dire un saut épistémologique ou un saut sémantique. C'est pas l'expression... Vous savez qu'il y a des niveaux de sens que certaines pratiques à la fois ascétiques ou interprétatives permettent d'élaborer. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des sens, mais il faut, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut des méthodes, il faut des pratiques qui peuvent être très physiques ou ascétiques, comme très spirituelles ou exégétiques. On peut rejoindre ces niveaux de sens supérieurs par des pratiques différentes, hein, qui sont aussi bien des pratiques du quotidien que des pratiques très élaborées. Moi, j'aurais presque aussi, on n'a pas le temps, une question, mais qu'est-ce que serait la contrition dans une langue arabe ou dans la tradition? Est-ce qu'il y a ce concept?
Très bonne question, effectivement. Il y a plusieurs termes qui le rejoignent, mais aucun qui correspond exactement.
Parce qu'on parlait ce matin de l'ascétisme. D'ailleurs, vous évoquiez très rapidement la contrition. Je me suis dit, quel est le mot?
La crainte, c'est plutôt la crainte de Dieu.
D'accord. C'est précis, là, hein, la contrition. C'est une pratique, presque. Mm-hmm. Donc, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas vraiment.
Si, il y en a plusieurs, mais le contexte dans lequel se passe la faute et cette impression, justement, de deuil, qui n'est pas d'ailleurs exprimé comme un deuil, c'est quand même très, très différent.
Ce qui est étrange, moi-même surpris en étudiant un peu attentivement tout ça, c'est que dans cette souffrance, ce regret, il y a du deuil. C'est quand même assez surprenant.
Mais oui, surtout dans le cadre d'une doctrine de la rédemption.
Voilà, du deuil. Même sens, c'est des mots qui deviennent interchangeables. Ça, on n'a pas dans la tradition isolée. Voilà, je ne veux pas abuser.
Un grand merci, Serge, pour cette exposé très, très riche.